Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion et accessoirement pour une nouvelle année aussi. Bonne année que nous souhaitons d'ailleurs à tous nos auditeurs. Nous allons commencer cette émission en parlant évidemment de cette histoire de remaniement. Alors non pas que ce soit l'histoire la plus intéressante à traiter en soi, et je sais que ça,
c'est le genre de sujet
qui vous gonfle un peu. Ce qui est intéressant derrière, je trouve évidemment, c'est pas tellement une possibilité de changement de stratégie ou d'objectif politique, puisque bon, maintenant c'est officiel depuis quelques minutes, lorsque nous enregistrons cette émission, ce sera bien Gabriel Attal. Apparemment, ça a hésité un petit peu, il y a eu des réticences, notamment, il semblerait, de la part de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin. Voilà.
Forte personnalité.
Forte personnalité, mais c'est justement aussi, forcément. Quand on est dans un monde comme ça de courtisans et de petites personnalités, celui qui arrive à passer devant les autres, forcément, on n'en dit pas forcément du bien. C'est pas étonnant, je trouve, que ce genre de profil soit mécontent à l'annonce de ce remaniement. Et puis, je pense qu'il y a aussi le côté, tout simplement, le fait d'être chapeauté par cette personne qui est Gabriel Attal. Quand on est Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, je comprends que ça fasse un peu je me fais diriger par mon neveu, quoi. Donc c'est peut-être ce côté-là qui les a exaspérés, ou irrités du moins.
Oui, vous savez, moi, ce que ça me rappelle irrésistiblement, c'est l'histoire. Il paraît que quand le Titanic était en train de couler, vous savez,
oui.
Pour que ça se passe pas trop mal, enfin que les gens pensent à autre chose. On a donné des ordres aux gens des salons de ranger les chaises mieux, parce que ça s'appelait ranger les chaises sur le pont du Titanic. Vous savez, c'est le Titanic est en train de couler, c'est notre cher pays, et puis il y a des gens qui vont ranger les chaises dans le salon.
Ouais. Ou qui les réorganisent d'une manière.
Qui mettent les chaises de gauche à la place de la chaise de droite, où il y en a quelque chose d'oré, ça énerve les autres. Vous avez d'autres exemples comme ça, comme les gars qui discutent du sexe des anges quand les Turcs sont en train de grimper les murailles. Tout ça, c'est des trucs, si vous voulez, qui sont passionnants, mais imaginez-vous que ça sera... Je pense pas que ce sera jamais dans un livre d'histoire.
Oui, absolument. Bah, en plus
ça n'a aucun intérêt.
Chaque remaniement semble moins intéressant que le précédent, en plus de ça. Puis, je dois dire que je n'estimais pas nécessaire un remaniement actuellement.
Mais il fallait, parce que sans ça, elle ne pouvait plus utiliser le 49-3.
Oui, alors...
Il fallait un nouveau gouvernement pour qu'on puisse à nouveau utiliser le 49-3. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Quoi. C'est la constitution remarquable que nous avons, qui n'a cessé de s'améliorer depuis 58, quoi.
Ouais, c'est ça, et puis, on sent un petit peu d'amateurisme, quand même, dans la mise en place de cette histoire-là, c'est-à-dire que Elisabeth Borne remet sa démission, elle est acceptée par le président, derrière, Gabriel Attal passe à l'Élysée, sauf que il a fallu quand même attendre une journée quasiment entière avant de savoir que c'était bien lui le Premier ministre. Quelque part,
en plus, il a l'air bien élevé, propre sur lui, ce gamin, mais il a 34 ans.
Oui.
Vous savez, mon cri de guerre dans la vie, c'est place aux vieux, parce que les jeunes, ça fait 30 ans qu'ils font que des conneries, mais donc il faudrait peut-être sélectionner quelques vieux. Non pas que je sois volontaire, je me dis, avoir des gens d'expérience. C'est un principe, les Chinois, ils font ça très bien. Ils ne mettent jamais un jeune, parce que les jeunes, ça peut faire que des bêtises, quoi. Donc, je ne sais pas, mais mettre un jeune de 34 ans avec un jeune de quoi? Quel âge est là le président aujourd'hui? J'en sais pas très bien.
Je ne sais plus, il doit avoir 45 ans, quelque chose comme ça, 44, 45.
Ah ben, un président de 45 et un ministre de 34 qui n'ont rien vu, qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, ni sur l'économie, ni sur la finance, ni sur la vie, ni sur rien. Je me dis, le jour où le bateau va vraiment couler... Il va falloir souquer. Hein.
Ouais. Alors, moi, je m'intéresse, je trouve que s'il y a quelque chose d'intéressant dans cette question, je pense que c'est ça. C'est la question du profil, parce qu'on a bien vu depuis quelques années que Emmanuel Macron, il préfère des profils qui, n'iront pas plus loin. Elisabeth Borne, c'est le côté un peu techno, comme ça, fille, pas très. hier pas très intéressante, mais enfin surtout pas très fun.
Puis voilà, dans leur a montré qu'elle était capable de faire n'importe quoi, puisque elle avait été nommée ministre de l'industrie pour fermer la moitié des centrales, et elle devient premier ministre. Il faut en rajouter 6. Alors on sent qu'elle a des convictions écologiques profondes, quoi.
C'est ça. Bah oui, pareil que Macron. Castex juste avant, c'était pareil, profil un peu techno qui ne peut pas faire de l'ombre en fait au président.
Non, puis Castex, il était rigolo parce que la seule raison pour laquelle été choisi, c'est bon, il avait fait l'ENA, et il avait l'accent de l'Ariège, alors c'était rigolo, quoi.
Oui, voilà,
ça donnait un côté populiste.
Ça fait un peu France des territoires, voilà, c'est l'expression qui est souvent utilisée. Mais Gabriel Attal, c'est quand même un autre profil, parce qu'on sait que Gabriel Attal, voilà, c'est un mec, il en veut, il a de l'ambition, peut-être qu'il vise un jour la présidence de la République. Il est décrit comme une arme anti-Bardella, parce qu'il a un profil assez similaire. Pas fait beaucoup
sauf
d'études,
que lui il a fait l'école assez jeune et que l'autre lui, il a été à l'Alsacienne.
Il a été à l'école
donc on sent
qu'il
a eu le vie très très dur à l'école alsacienne. Voilà, c'était très ça, il a fallu qu'il
oui bah déjà il, bon ce qui a été essentiellement difficile dans sa scolarité, c'est le fait d'avoir été dans la même classe que Juan Branco en 5e B apparemment, ce qui a laissé des marques indélébiles
en tout cas sur genre Juan Branco, qui, je sais pas ce qu'il avait fait ce pauvre gars, mais
je sais pas, il lui a volé son goûter ou il a, je sais pas,
ils ont rien. Un morceau de chocolat à la cour de récréation.
Je crois qu'il avait volé sa copine, une histoire comme ça. Bon. Forcément impardonnable.
En cinquième ?
En cinquième.
Voilà, c'est ça le drame.
Non, j'exagère, ça devait être en seconde, quelque chose comme
c'est,
ça.
C'est le drame des les lycées mixtes, c'est que moi, quand j'étais chez les jésuites et tout, on pouvait pas voler la copine du mec parce qu'il n'y en avait pas. Alors, c'était quand même comme ça, on pouvait penser aux études, quoi.
Ouais, c'est
pas
sûr.
Plus bête.
C'est sûr. Oui, bah là, c'est école alsacienne, on peut voler les copines des autres. C'est.
Ils n'ont pas de tenue, ces protestants.
Ouais. Non, et surtout, en plus de ça, il y a tellement d'entre-soi dans ce milieu-là. Forcément, oui, tu voles la copine de l'un, tu la retrouves forcément quelques années plus tard où tu ailles.
Hein. Je crois que. Attendez, bougez pas, il y a sur toutes les promotions de Sciences Po, de l'ENA, d'HEC, je ne sais plus quoi, à Paris, ils viennent des mêmes 30 jardins d'enfants à Paris. Donc, il peut y en avoir 2 ou 3 au jardin d'enfants à l'école alsacienne.
Ah oui, même plus.
Quelques-uns à Saint-Jean-de-Passy, quelques-uns, puis ils doivent se retrouver. Quoi.
Ah oui, je pense que l'école alsacienne, c'est peut-être le plus gros. Peut-être le lycée avec le plus gros pourcentage de cooptation de cette élite administrative, je pense, à mon avis, qui ensuite va à Sciences Po, tout ça, l'ENA. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est un peu ce que Macron veut faire d'Attal, parce que
mais
on sait, parce
pourquoi
que la question se pose en fait derrière.
Non, mais ça m'intéresse beaucoup.
Évidemment, c'est très hypothétique, mais évidemment, il y a l'ombre de 2027 qui se profile. On sait que Bruno Le Maire a envie d'y aller, Darmanin peut-être, Gabriel Attal possiblement. Et la question qui se pose, c'est un peu qui Macron va choisir comme héritier. Et il semblerait qu'il a une préférence pour Gabriel Attal, sauf que selon moi, c'est vraiment pas un cadeau de lui filer le poste de Premier ministre. Pour moi, il était très bien à l'éducation nationale, il était en train de se faire une super réputation, et aujourd'hui, ça fait depuis Pompidou qu'un Premier ministre sortant n'est pas élu président de la République. Et le dernier président de la République à avoir été avant Premier ministre, c'était Chirac, mais il n'avait pas réussi à transformer l'essai la première fois. Quand il était d'abord Premier ministre de 86 à 88, il n'a pas réussi à être président en 88. Il a dû attendre 7 ans de plus pour l'être. Donc c'est vraiment pas un cadeau, selon moi.
Moi, je trouve cette question extraordinairement, si je peux me permettre, sans vouloir être méchant, mais inintéressante, parce que qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? D'abord, je serai peut-être plus là, en 2027, pour ce que j'en sais, puisque j'ai 80 balais, tout peut arriver. Mais en plus, si vous voulez, vous allez élire quoi ? Un type qui n'a aucun pouvoir, qui ne sert à rien, qui ne représentera rien, on n'a plus aucune souveraineté. Mais à quoi il va servir ? Il va aller. Autrefois, on disait, je ne veux pas inaugurer les chrysanthèmes. Mais dans le monde qui est en train de se préparer, quel est l'intérêt d'être président de la République ? La seule chose, c'est qu'on retrouve nos souverainetés. Et ensuite qu'on ait un débat politique en France sur la façon dont on va être gouverné. Mais à quoi ça sert ? C'est comme si vous me disiez que vous allez être, je sais pas, président du comité d'honneur pour la culture du géranium, quoi. Ça ne sert plus à rien, président français.
Certains vous diront peut-être qu'il est urgent d'être président pour justement brader un maximum de souveraineté à Bruxelles.
Mais il n'y en a plus. On a tout bradé, c'est
pas
fait.
Pas qu'il y en ait d'autres.
On a tout bradé, qu'est-ce qui reste à brader ?
Là, actuellement, je dirais qu'il reste l'armée et le nucléaire.
L'arme nucléaire, mais à quoi ça sert l'arme nucléaire? L'armée en est 60 000, l'arme
l'énergie,
nucléaire.
L'énergie, plus sur l'énergie nucléaire.
L'énergie, bon, l'arme nucléaire, je veux bien, mais vous n'allez pas l'imaginer aller que les Turcs nous envahissent, allez, ou que les Turcs qui sont en France se révoltent et que l'armée turque vole à leur secours, ce qui est une hypothèse qui peut arriver en Allemagne d'ailleurs. Bon, vous n'allez pas tirer l'arme atomique sur la France?
Non, c'est clair.
Si vous voulez, aujourd'hui, les guerres qu'on va avoir. C'est pas des guerres où on va passer dans le pays d'à côté, où on va aller les mettre sur la gueule. C'est des espèces de guerres civiles, quoi. Vous pouvez pas utiliser l'arme nucléaire dans une guerre civile.
Ouais.
Donc, si vous voulez, moi, tous ces gens qui sont en train de raisonner comme si ils allaient se battre pour prendre la place de De Gaulle. De Gaulle, oui, il prenait des décisions, il avait des politiques, mais là, ils servent à rien. Je comprends pas.
Non, moi non plus, je comprends pas.
Bah, je vois bien, la place est bonne, ils gagneront de l'argent, très bien, j'en sais rien, d'ailleurs, on m'en fout. Mais à quoi ça sert de se donner un mal de chien pour être président dans un théâtre d'ombre?
Je sais pas, je pense que c'est vraiment un ego trip, c'est le fait de se dire, voilà, j'ai envie d'être président, du coup je suis président, même si derrière, enfin je veux dire, vous ne faites rien qui vous inscrit en soi dans l'histoire. Vous êtes une anecdote, pas plus, et pourtant vous avez normalement la fonction suprême d'un grand pays. Oui. Quoi. Mais c'est sûr, moi ça ne m'intéresserait pas aujourd'hui d'être président de la République. C'est plus d'emmerde qu'autre chose.
Non, c'est ça.
Et trop d'emmerde et pas assez de pouvoir.
Le président actuel aujourd'hui, il est tellement craintif et peureux. Je ne sais pas si vous passez devant l'Elysée, mais c'est devenu un bunker, ce truc.
Oui, totalement.
Vous ne pouvez plus passer à pied, vous ne pouvez plus passer en voiture. Quand est-ce qu'il a des contacts avec les gens, ce gars-là?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il paraît qu'auparavant, Mitterrand sortait régulièrement pour aller chez son libraire, à pied. Aujourd'hui, Macron, quand il sort, il y a 6 bagnoles supplémentaires.
Il est dans une bagnole avec les vitres teintées, on ne sait pas que c'est lui. Donc, bon, ce gars-là vit en prison.
Belle prison quand même, mais ouais.
Oui, bah, enfin, la prison, c'est l'endroit où je sais pas, pour moi, il vit en prison, donc il n'est pas libre, il a une vie de merde, enfin, j'en sais rien. Donc, si vous voulez... Je regarde ça avec stupéfaction. Et que des journalistes se donnent un mal de chien pour écrire des papiers, pour expliquer.
Ouais.
Ça le laisse encore plus pantois. Mais
ouais, c'est sûr. Fallait que j'en parle quand même, mais je savais que ça n'allait pas vous intéresser beaucoup. Donc le sujet suivant.
Vous voulez que je m'intéresse à des zombies, des êtres qui n'ont rien, qui sont vides?
Non, c'est surtout. Moi, ce que j'aime bien faire dans ces émissions, c'est certes parler d'actualité, mais je veux que ça ait un écho dans le temps. Et ça, c'est le genre d'actualité qu'on commente sur le moment, qui est très intéressante pour les plateaux télé, parce que ça permet d'avoir quelque chose à dire. Et encore. Mais derrière, c'est quelque chose dont on ne se souviendra pas peut-être dans 5 ou 6 ans. Quoi. Donc, sujet suivant, on va reparler des élections américaines. On en avait parlé dans la dernière émission fin décembre. Parce que, bon, au niveau timing, le moment où on en a parlé, c'est un peu le moment où la présidentielle a vraiment démarré. Il s'est passé... Même en l'espace de 2 semaines, il s'est passé pas mal de choses depuis, notamment les deux cours suprêmes, alors du Colorado et du Maine, qui veulent empêcher Trump de se présenter à la primaire républicaine. Alors, c'est ma première question. Est-ce que c'est une menace sérieuse, non, ça?
C'est du pipeau, ça. C'est du pipeau pour une raison très simple, c'est qu'ils se servent d'un texte de loi qui avait été créé après la guerre civile,
ouais, c'est ça.
Pour interdire aux gens de se présenter. Donc il y avait une condition aux États-Unis, c'est qu'il fallait être né sur le sol américain, et une possibilité d'exclusion, c'est que si vous aviez participé à la guerre civile... Et donc, comme Trump, il n'était pas né, il n'avait pas 20 ans en 1856, il ne peut pas y avoir de politique d'exclusion. Et même s'il était condamné de façon pénale ou je sais pas quoi par les cours de justice, il pourrait gouverner les États-Unis à partir de la prison.
Mmh. Ah ouais.
Donc le fait d'avoir été condamné par une cour n'est pas du tout recevable si vous voulez vous présenter à l'élection présidentielle.
Ouais.
Donc les démocrates essayent de de l'accabler sous tellement de procès, etc., qu'il se dit qu'il y en a peut-être un qui finira par le condamner, parce que pour l'instant, il n'a jamais été condamné. Hein. On n'a jamais rien trouvé contre lui. Mmh. Donc, par contre, si on cherchait du côté des démocrates, on trouve tout ce qu'on veut. Mais lui, on m'a dit des choses horribles sur Trump, mais pour l'instant, il n'a aucune preuve. Quoi. Alors, on essaye de le condamner sur le fait qu'il aurait été à l'origine de cette émeute qui s'était passée le 6 janvier l'année de l'élection. Ils vont avoir du mal, hein, parce que justement, oui, il a envoyé des papiers, il a envoyé des trucs en disant surtout pas de désordre.
C'est ça, c'est l'argument qui est utilisé par ces cours. Et effectivement, je crois qu'elle se base sur le 14e amendement qui vise effectivement.
Mais qui n'a plus lieu d'être, puisqu'il n'y a plus personne.
C'est-à-dire qu'ils disent à cause de ce qui s'est passé le 6 janvier, en fait, Donald Trump s'est rendu coupable.
Mais il n'a pas été jugé pour ça.
Non, il n'a pas été jugé pour ça.
Il n'a pas été jugé pour ça. Et pour l'instant, donc on dit.
C'est une interprétation totalement libre.
Libre, les types disent, comme c'est lui qui a suscité ça, ce qui n'est pas vrai.
C'est ça.
Donc, comme c'est lui qui a suscité ça, c'est une tentative de coup d'État. Donc, si c'est une tentative de coup d'État, rien ne les empêchait de déposer plainte et puis ensuite de vérifier s'il y aurait ou non, il y avait eu de. Mais c'est quand même la première tentative de coup d'État qui se soit passée sans que quiconque ait porté des armes.
Ouais. Et puis, une tentative de coup d'État par un président encore en exercice qui accepte la passation de pouvoir deux semaines après. Enfin, je veux dire, drôle de coup d'État quand même.
Non, mais en plus, surtout, d'après ce qu'on peut savoir aujourd'hui, j'en sais rien, ça a l'air d'être un coup monté pour justement essayer de mettre Trump dans la. Il y aurait eu plus de 200 agents du FBI qui auraient été parmi
la population
qui manifestait. Et c'était eux qui ont poussé les gens à rentrer et tout. Et puis, donc, tout ça, vous savez, ce qui m'embête beaucoup avec ce qui se passe aux États-Unis, je vous le dis très franchement, c'est que vous avez toujours deux narratifs.
Ouais.
Et vous avez. Et personne ne me donne des indications suffisamment fiables pour que je sache lequel des deux est le bon.
Ouais.
Par exemple. Les gens de Trump disent, mais nous, Trump, il avait envoyé un message la veille en disant surtout pas de désordre, le jour même en disant, vous manifestez dans le calme et vous laissez bien tranquille les flics. Et c'est surtout les trucs officiels. Et de l'autre côté, vous avez cette manifestation dans laquelle Trump aurait été responsable de ça. Et puis il avait demandé au vice-président de ne pas entériner les voix. Bref, il y a. Mais je voudrais que quelqu'un me dise, bon ben, il y a sûrement des pièces au ministère de la Justice. Par exemple, est-ce que oui ou non, il y avait 200 agents du FBI sur la place en train d'inciter les gens à se révolter ?
Mmh.
Bon, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait savoir, non ? C'est un ministre de la Justice compétent pourrait demander, parce que ces gars-là ont été payés, on a les photos, on voit, avec le jour de la reconnaissance faciale, c'est pas difficile de regarder les gars, voir si par hasard, correspond à des agents du FBI.
Il y a des trucs comme ça, parfois un peu bizarres, c'est comme il y a quelques mois aussi, il y avait eu une soi-disant manifestation d'ultra-droite, et en fait, tous les mecs étaient dans des espèces d'uniformes un peu bizarres, et tout le monde disait que c'était des types du FBI, parce que il n'y avait aucun mouvement, en fait, de droite qui était, conservateur, républicain, qui était au courant de cette manif, et il y avait que des mecs, effectivement, dans un espèce d'uniforme un peu étrange, très, très suspicieux. Donc effectivement,
vraiment l'impression qu'il y a des espèces de coups tordus qui sont montés et que la presse s'en empare, les monte en épingle. Et autrefois, ce qui faisait plaisir autrefois, c'est que une presse convenable aurait fait le tri, aurait fait le boulot.
Ouais.
Mais là, on sait que par exemple, dans les dernières élections présidentielles aux États-Unis, 98% des journalistes ont voté Biden, c'est-à-dire contre Trump. Ben, c'est pas normal que dans une profession comme les journalistes, il y ait 98% qui votent alors que la population est 50-50, quoi.
Et les journalistes estiment que c'est légitime de leur part d'être totalement militants. On se souvient,
c'est toujours la même chose. Comme ils disent, Trump va être un tyran, un fasciste, c'est un nouvel Hitler, j'ai le droit de ne pas. Ben, attendez une seconde.
Donc en fait, je m'inscris contre la démocratie contre le vote libre, voilà. Au nom de la démocratie. Parce qu'en fait, vous comprenez,
c'est ça, c'est-à-dire que
si
vous,
Trump avez... était réélu,
moi, j'ai le droit de voter, mais vous, vous ne devriez pas. Quoi.
Voilà. Donc en fait, on a le droit de protéger volontairement, de manière totalement
illégale.
Non professionnelle, illégale, illégitime. On a le droit de protéger, du coup, Joe Biden pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'en fait, on met totalement un vice dans la démocratie.
Mais il y a Biden qui vient de faire un discours hier.
En tant que journaliste,
dans un endroit, on protège dans un endroit tout à fait éminent aux États-Unis où il y a eu des batailles qui sont produites dans le passé, etc., qui était un endroit un peu sacré. Il a fait un discours long en large en expliquant que Trump était un danger pour la démocratie, que le Parti républicain était un danger pour la démocratie, et que c'était le Parti démocrate ou la dictature.
Ouais.
Ce qui est quand même extraordinaire.
Je trouve que c'est totalement contradictoire, et à mon avis, les démocrates se mettent eux-mêmes une épine dans le pied à faire ce jeu-là, parce que déjà, Trump a été au pouvoir pendant 4 ans, la démocratie est restée.
Voilà. Bien sûr.
Il n'a pas fait de coup d'État, il n'a pas été tyrannique. Il y a eu, lors des élections de mi-mandat en 2018, qu'il a perdu, il n'a pas fait de coup d'État non plus. Enfin, je veux dire, voilà, le jeu des institutions n'a pas changé entre avant et après Trump. Avant et pendant Trump. Alors que d'autre part, s'il y a bien un parti qui essaye d'empêcher l'autre de faire campagne, c'est le Parti démocrate.
Mais
avec justement
la façon
les cours suprêmes
aussi, dont ils traitent le Kennedy, Robert Kennedy Jr., c'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour l'empêcher de faire campagne. Ouais. Or aujourd'hui, dans les sondages, en particulier chez les jeunes, il semble bien que ce soit 33, quoi. Il y en a 33 à peu près pour Trump.
Ouais, il a un peu la cote chez les jeunes, effectivement.
Il monte beaucoup, mais ça veut dire que dans toute une série d'endroits, on va peut-être se retrouver avec une situation très difficile où il y aura 3 candidats. Et si on est celui dont on pense qu'il n'a aucune chance, Kennedy, qui fait plus de 20% des voix, allez, il va l'emporter dans certains États. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas celui qui est la maximum de voix, s'il n'a pas le nombre, la majorité du nombre des États, il n'est pas élu. C'est-à-dire que si, même s'il a plus d'États que son concurrent, donc à ce moment-là, c'est le...
Il faut avoir 270 grands représentants, quoi.
Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le président des États-Unis est élu par la Chambre des représentants. D'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, actuel, oui.
Qui a une faible majorité républicaine. Ouais. Mais dans lequel il y a toute une série, pas dans cette faible majorité républicaine, de rhinos, de gars qui sont...
Ouais.
Donc aussi bien, ils pourraient aller voter pour un cornio comme le sénateur mormon de l'Utah, là.
C'est vrai.
Donc, c'est encore une fois, il risque d'avoir un truc où il y a un pays qui est divisé et des élections qui n'arrivent à aucun résultat. Qui ne permettent pas une... Au moins, si Trump est élu, on sait ce qui va se passer. Il va nettoyer le ministère de la Justice, etc. Et puis si un démocrate est élu, ben, ça sera la continuation de la même chose. Donc on a deux trucs très nets. Avec la présence de Kennedy, je ne sais pas trop ce qui va se passer.
C'est sûr, c'est pas nouveau qu'il y ait des candidats indépendants qui se présentent, sauf que d'habitude, ils font vraiment des scores très faibles. Là, j'ai regardé un peu, notamment dans les swing states, les derniers sondages, il est donné, en général, autour de 10%. Mmh. Ce qui est déjà énorme pour un candidat indépendant, ni démocrate ni républicain, c'est énorme. Et ça peut permettre de faire basculer certains États dans le statut de swing state. Parce que ce qui est intéressant, c'est regarder les swing states traditionnels. Mais il y a aussi des États, soit d'un côté qui se renforcent, que ce soit côté républicain, côté démocrate, soit qui se fragilisent. Je pense notamment, par exemple, le Texas, d'habitude, c'est un énorme bastion républicain. C'est pas impossible que dans les années à venir, ça devienne un swing state. La Floride, c'est en train de devenir un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'était un swing state et c'est en train de devenir très républicain, notamment grâce à l'action de DeSantis. Donc il y a aussi des États comme ça qui peuvent basculer.
Ce qui se passe, c'est que c'est horrible à dire, mais il y a tous les Californiens qui se barrent de Californie parce qu'ils ne peuvent pas y vivre, qui arrivent au Texas, et pas qu'ils se mettent à voter démocrate, de façon à transformer le Texas
en Californie.
En Californie. On ne peut pas s'empêcher de se dire, mais écoutez les gars, si vous vous barrez parce que vous ne supportez pas les démocrates, votez pas les démocrates, mais ça ne fait rien.
Ça. Non, mais en fait,
les gens ne sont pas toujours logiques. Hein.
ils aiment bien le moment où ça vient de passer démocrate, parce que ça peut être sympa pour eux sur le plan sociétal et tout, mais ensuite, lorsque les années se poursuivent, c'est un peu moins drôle. C'est comme New York, bah, c'est sympa juste après le passage de Giuliani. La Californie, c'est sympa dans les années 80-90. Bon, quand ça devient un nid à drogue, en fait, on peut faire on a des shoplifters qui peuvent pas être poursuivis derrière par les magasins. C'est un peu moins rigolo, voilà. C'est sûr.
Mais j'ai vu d'ailleurs que Walgreens, je crois, qui était un grand magasin américain, un peu spécialisé dans tout ce qui est pharmaceutique, les vols sont supérieurs à leur profit.
C'est pas étonnant, mais d'ailleurs...
C'est monstrueux.
Il y a plein de magasins maintenant en Californie qui ferment, et on a d'autres qui sont sur le point de fermer, parce que je vois pas comment ça ne peut pas impacter énormément les ventes. C'est qu'ils mettent tout sous cadenas. C'est-à-dire que, en fait, vous faites vos courses, vous voulez un paquet de céréales, je sais pas quoi.
Vous voulez m'acheter j'ai deux gilets, vous savez, ouais, voilà. Raser, vous savez pas ça parce que vous rasez pas, mais moi je me rase tous les jours. Et ben, les machins, les petits paquets de gilets, vous savez, avec ils étaient sous cadenas.
Ouais, et voilà, et du coup, vous êtes obligé d'appeler quelqu'un du magasin pour faire vos courses. Imaginez, vous voulez remplir un caddie entier, ça va prendre un peu de temps, quoi. Il va falloir du personnel. Donc les pertes derrière pour les magasins sont absolument énormes, mais il y en a plein qui ferment et qui disent, bah en fait non, nous on veut pas être là, et qui ouvrent d'autres magasins, bah du coup dans des états un peu plus civilisés, et c'est souvent des états républicains en fait.
Bon. Vous êtes en train de dire que la civilisation abandonne les endroits où les partis démocrates passent, c'est pas impossible.
Oui, moi je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est pas immédiat, ça prend quelques années, mais à la fin, oui.
En général, oui. Bon, j'ai vu ce pauvre là, autour de Minneapolis, là, où il n'y a que des Scandinaves. Hein. Ils étaient tous arrivés là-bas parce qu'ils avaient besoin de se cahier comme à la maison, vous savez. Donc ils étaient tous partis là-bas où il fait noir. Un froid de canard pendant l'hiver. Et c'était les gens, c'est les gens les plus sociaux, les Scandinaves, ils sont très, très bien élevés, ils adorent le consensus. Et ces États qui étaient les mieux ordonnés, les plus gentils, les plus. C'est en train de devenir un foutoir. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Plus rien ne marche, c'est. C'est très étonnant.
Oui, ils vont tous soit au Texas, soit en Floride.
Ils retournent dans des petites villes.
Et Et pareil, c'était il y a même pas 10 ans, quand j'étais au collège, lycée, on parlait de la Silicon Valley, c'était un truc de malade et tout. Il y a plein de start-up, voire même de très grosses entreprises qui se relocalisent, que ce soit au Texas ou en Floride, parce que il y a un double avantage, déjà un avantage fiscal forcément. Mmh. Et puis il y a un avantage parce que bah du coup vous avez c'est plus simple de trouver des employés qui veulent bien travailler dans ce coin-là. Voilà, il y a énormément d'avantages. C'est Elon Musk qui remet plein d'usines au Texas. Il y a même Jeff Bezos, alors lui il était pas en Californie, il était dans l'état de Washington, il me semble. Qui lui aussi, alors je crois qu'il veut se foutre en Floride. Enfin voilà, même des grosses personnalités comme ça, démocrates, en fait, vont vivre dans ces états républicains parce que tout simplement c'est plus agréable d'y vivre.
Et parce qu'on peut y travailler.
Parce qu'on peut y travailler, pareil. Voilà.
Donc on a quand même. C'est une drôle de chose parce que voilà. Je le vois de façon. J'ai vu quelque chose, j'ai été passé quelques jours au Maroc, là, j'en ai parlé tout à l'heure, mais. Et pour moi, le Maroc a été une grande surprise parce que. Je me souvenais de mon enfance dans les pays d'Afrique du Nord, mais ben c'est un pays en pleine transformation qui a l'air de très bien marcher. Mmh. J'ai été très surpris, tout était propre, il y avait des logements partout, les maisons étaient belles, l'immeuble aussi, vous aviez des stations-service, des autoroutes. Et ça m'a rappelé la Turquie il y a 10 ou 15 ans, quand elle était en train avec Erdogan de commencer son développement économique. Et je me suis dit, donc, une politique raisonnable dans la durée, comme semble le faire la royauté marocaine, ça finit toujours par avoir des résultats positifs. Et une politique de facilité à court terme, ça finit toujours par avoir ça m'a ramené des désastres. Je compare, si vous voulez, la propreté de la ville. J'étais un moment à Marrakech, qui est nickel, avec Paris. Et je pouvais pas. L'aéroport de Marrakech, qui est superbe, bon, il n'est pas grand, il est comme celui de Toulouse à peu près, mais. Et puis, quand vous arrivez à Roissy, je me disais, c'est quand même extraordinaire comme une volonté politique. Puis, si vous comparez ça, le Maroc, avec ce qui se passe en Algérie ou ce qui se passe en Tunisie, qui sont tous les deux dans des situations assez délicates, ben vous dites donc une volonté politique ferme, pas d'une intégrité totale, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas parce que Erdogan était aussi.
Mais c'est pas les plus grands démocrates.
C'est pas les plus grands démocrates, mais cette espèce d'effort dans la durée de quelqu'un qui pense au long terme.
Ça paye toujours.
Ça paye. Ouais, ça paye. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis 40 ans, ça veut dire qu'on a eu des gars qui pensaient qu'aux élections cantonales de la semaine prochaine.
Oui, c'est ça. Ça navigue à vue. Bah, déjà, on a parlé en tout début d'émission. C'est très symptomatique de cette manière de penser, tout ce qu'on fait sur le nucléaire.
Oui.
C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi, mais enfin.
On a tout abandonné.
Il faut un mix énergétique. On ne sait pas pourquoi on est à 75% de nucléaire. Il faudrait passer à 50%.
Pourquoi?
Apparemment, c'est plus vertueux. Bon. En fait, c'est juste le résultat d'un accord entre Cécile Duflot et François Hollande en 2012, qui nous engage, on ne sait pas pourquoi, encore aujourd'hui, à fermer des centrales nucléaires, avec notamment l'exemple de Fessenheim. Et ensuite, alors c'est peut-être le seul point positif de cette histoire de guerre en Ukraine pour nous, c'est qu'en fait on est obligé de se réveiller sur la nécessité de conserver nos intérêts stratégiques, quelle que soit la situation internationale. C'est-à-dire qu'en fait c'est jamais très bon de reposer sur le gaz d'un pays qu'on s'apprête à critiquer juste ensuite. C'est pas forcément le meilleur plan stratégique qui soit. Et donc, effectivement, la France a un énorme avantage stratégique avec le nucléaire. Et on peut se féliciter aujourd'hui du fait que Macron annonce du coup l'ouverture prochaine de certains EPR.
Prochaine, attendez une seconde.
Enfin, prochaine.
Vous avez vu combien il a fallu temps pour faire Flamanville,
ouais.
Comment ça s'appelle?
Flamanville, ouais.
Ça fait 12 ans, elle est toujours pas ouverte.
Ouais.
Donc. Ils me font rigoler, ils disent on va en faire 6.
Ouais.
Mais est-ce qu'ils ont.
On sait pas combien de temps ça va prendre.
Ça me rappelle exactement ce qui s'était passé avec cet animal de Juppé, qui trouvait qu'il y avait trop de monde qui allait dans les études médicales, donc qui a mis un numerus clausus, pas plus de temps de docteur. Et c'était il y a longtemps, hein, c'était donc. Et 30 ans après, on se retrouve avec une pénurie de médecins partout. Mmh. C'est-à-dire, ce sont des crétins.
Et on peut avoir la même chose dans le nucléaire, puisque
on va pas avoir la même chose.
Vous pouvez,
ingénieurs.
Quand vous annoncez en fait qu'on va fermer je sais pas combien de centrales, ça incite pas du tout les ingénieurs à aller dans le domaine du nucléaire, puisque ça veut dire qu'ils vont avoir, ils vont être plafonnés en fait au niveau du nombre de postes à pourvoir. Et derrière, lorsque vous réannoncez l'ouverture de d'autres centrales, alors peut-être que pour les nouvelles filières, enfin pour ceux qui vont faire des études actuellement, c'est un bon signal pour aller dans les études
dans le domaine nucléaire.
Sauf que voilà, ils seront prêts dans minimum une dizaine d'années, et donc on risque d'avoir un trou.
Non, mais surtout dans une dizaine d'années, on peut être rigolé, mais la façon dont ça se passait, c'est qu'il y avait un ingénieur qui sortait des arts et métiers, allez, et puis il avait trouvé un ingénieur qui sortait des arts et métiers 25 ans avant, qui lui montrait comment ça se passait.
C'est ça.
Mais là, celui qui arrive aujourd'hui, il va pas trouver le gars qui a 25 ans.
C'est ça, il y a un trou générationnel.
Il y a un trou générationnel, et donc il va faire toute une série de boulettes. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est. Le Musk, il racontait une histoire dans une biographie qui vient de sortir de lui, qui est assez remarquable d'ailleurs. Il racontait une histoire, il disait, au début, quand j'ai fait mes usines, il n'y avait que des robots. Et puis je me suis rendu compte que les robots, ils travaillaient beaucoup moins bien que les humains. Parce que s'il y avait un problème, le robot, il continuait la même connerie, quoi.
Oui, bah oui.
Il s'en foutait, lui, il y a un problème. Il arrêtait, mais il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Tandis que l'humain, il vissait le truc, il disait, tiens, il y a un truc qui s'est pété ici, je vais le réparer.
Ouais.
Et donc maintenant, il met autant d'humains qu'il peut dans ses usines, avec des robots. Mais c'est pour ça que l'histoire de l'intelligence artificielle, ça me fait rigoler, parce que. Il y a toujours un boulon qui se pètera à l'autre. Et puis le robot, il ne comprendra pas pourquoi il continuera pareil. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette espèce de crétinerie de penser que la transmission des idées, des conséquences, etc., ça se fait naturellement sans qu'il y ait un effort constant pour le porter à bout de bras. C'était ça autrefois, une nation, c'était quelqu'un qui... Il y avait celui qui prenait sa retraite, mais qui avait formé son successeur, qui lui-même commençait à regarder qu'il... Il y a quelque chose que j'aime beaucoup au Japon, C'est, vous savez, l'histoire de la retraite. Les types qui sont particulièrement bons à transférer leurs connaissances, comme ça, dans les boîtes, on vient les voir quand ils ont 55 ans et on leur dit « on va vous faire un grand honneur ». Oui, dit le japonais, toujours très sensible aux grands honneurs. « Vous ne prendrez jamais votre retraite. Vous resterez toujours dans l'entreprise pour expliquer ce qu'est cette entreprise, comment elle marche. » Donc, les meilleurs dans les entreprises au Japon, ils sont distingués. « Vous ne prendrez jamais votre retraite.
Ouais. »
Je trouve ça au poil.
Ouais.
En fait, ça vous dit que les civilisations peuvent être différentes. Mais je trouve ça incroyable que, ben, je ne sais pas, si vous étiez dans une usine, etc., quand on vient de vous voir, quand vous avez 55 balles, on dit vous avez été tellement bien que vous resterez là comme un témoin pour les générations suivantes.
Ben, oui.
Je trouve que c'est une idée brillante.
Oui, ben c'est sûr, c'est beaucoup d'honneur, hein, c'est sûr, de dire, en fait, on veut tellement pas se séparer de vous que même on va vous garder quand vous avez 85 ans.
Mais oui, c'est ça. Et donc, vous montrerez, vous ferez peut-être partie des équipes dirigeantes, mais c'est pas ça. C'est simplement. Et ils ont une autre truc que j'aime beaucoup au Japon, c'est quand un artisan a été particulièrement bon, ben, l'empereur le reconnaît comme un trésor national. Alors, si vous savez faire des... Donc, cette idée de valoriser le travail pour dire, bon, ben, celui-là, il le fait partie, c'est comme d'être un numéro un mondial au tennis, quoi. Ça arrive rarement. Mais tout ça, c'est une façon, on considère que le travail, c'est une pénibilité et qu'on peut vous remplacer par des machines. Mais c'est pas vrai du tout. Le travail, c'est toujours un truc qui est là et d'un seul coup, vous avez un gars qui découvre quelque chose auquel personne n'avait pensé. Bon, ben, c'est pas une machine qui le fera.
Ouais. Non, c'est sûr, la robotisation, c'est un phénomène logique, mais c'est sûr, il faut quand même de l'humain pas loin. Parce que, bah, par moment, il faut remplacer le robot, faut faire quelque chose.
Ou le robot, il se met à déconner.
Le robot, il se met à déconner, du coup, faut quelqu'un pas loin. Mais c'est surtout, ça aide pour les tâches très mécaniques, très. Voilà, mais...
Répétitives, complètement, celles qui sont complètement ennuyeuses.
Voilà,
mais celles qui sont vraiment intéressantes, c'est. Moi, je trouve ça quand même. Toute cette discussion, on l'a à peu près à chaque génération, sur le côté destructeur d'emplois de la machine, ça m'en fout, parce que c'est, ça détruit des emplois idiots, mais ça en crée beaucoup plus d'intelligents.
Oui, absolument.
Et donc, il y a aussi autre chose, c'est pas vraiment le sujet du jour, mais qui me tracasse beaucoup, c'est bon, ces élites françaises avec lesquelles je parle, le travail, j'en sais rien. Finalement, je suis arrivé à une idée assez curieuse, c'est qu'ils méprisent de façon extraordinaire l'intelligence manuelle, le travail des mains. C'est-à-dire que moi, je le vois, si vous voulez, il y a des gens avec qui je suis qui ont une intelligence manuelle. Moi, je suis un crétin manuel, hein, donc j'ai deux mains gauches, je ne sers à rien. Mais il y a des types qui font avec leurs mains des trucs tout à fait extraordinaires, qui ne sont pas plus malins que les autres, c'est beaucoup pas plus bête. Mais je veux dire, il y a aussi, quand vous parlez à ces gars-là, ils définissent le travail comme le gars qui a un chapeau en fer sur la tête et puis un maillot de corps et qui travaille en donnant des coups de marteau sur quelque chose et qui a très chaud et qui a très froid.
Ouais.
Mais c'est pas ça le travail manuel. C'est une extraordinaire stupidité. On voyait un artisan quand on voyait un type qui faisait des meubles laqués ou j'en sais rien. Donc.
Comme on veut pas que les gens fassent ça, on multiplie les études qui servent à rien.
On en fait des travailleurs pour McDonald's.
Ouais.
Après deux maîtrises de sociologie.
C'est censé être plus.
C'est censé être plus valorisant. Moi, tout ça, c'est des anecdotes qui reviennent à la même chose, mais je vous raconte tout ça parce que j'ai vu des Suisses et tout ça, donc c'est pas du tout la même idée, mais j'avais dans une famille très très honorable que je connaissais très bien à l'époque, un fils qui était pas le plus malin de la classe, mais c'est même pas la question, mais dont l'ambition dans la vie, c'était d'être garagiste.
Ouais.
Bon, il est devenu employé de banque. Parce que. C'est pas dans ces familles-là, on n'était pas garagiste.
Ouais.
Et je me suis dit, non, mais quelle connerie. Mais pourquoi pas garagiste si ça lui fait plaisir au gamin?
Ouais.
Il aurait peut-être été un très bon garagiste.
Ouais.
Et heureux comme tout. Et donc, ce mépris qu'a, dans le fond, cette bourgeoisie française pour le travail manuel, c'est curieux.
Non, c'est sûr. Bah, en plus de ça, derrière, ça fait que on a quand même besoin d'emplois comme ça.
Essayez de trouver un plombier.
Ouais.
rapidement.
Et ça sert aussi comme argument derrière pour faire venir énormément de main-d'œuvre immigrée. Pour dire, voilà,
mais qu'ils sont pas particulièrement formés pour ça.
Voilà, on a besoin de ça parce que les Français veulent plus faire ceci, cela. Non, c'est pas que les Français ne veulent plus le faire, c'est que c'est pas valorisé correctement. C'est pour ça que c'est bien quand même qu'il y ait ces histoires de lycées professionnels et tout, parce que bah il y en a, ils sont pas faits pour être doctorants, je sais pas quoi.
Oui, mais encore les lycées professionnels, moi je préfère le truc comme ils le font en Suisse. Vous allez en classe jusqu'en troisième, on décide, bon, bah, vous avez peut-être pas de raison, donc vous allez à une espèce de... C'est pas le lycée, vous avez un endroit où vous avez des cours, qui peut être une école normale, et puis vous allez dans les entreprises du coin pour apprendre ce qu'il faut faire. C'est pas toujours manuel, d'ailleurs. Mmh. Ça peut être dans une banque, ça peut être n'importe où, dans une compagnie d'assurance. Donc, vous rentrez dans le travail quand vous avez 14-15 ans, et là, on retrouve cette façon d'avoir ce qu'on appelait autrefois des mentors, des gars qui vous prennent, qui vous expliquent comment ça marche. Et il semble qu'en France, on ait décidé de casser ce lien de transmission de génération dans les professions manuelles. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'on avait des artisans comme pas possible.
Ouais, c'est vrai.
Je sais pas, c'est très curieux.
Non, c'est sûr, je me fais la réflexion tous les jours. C'est hyper important d'avoir ces métiers-là. On a un problème de dévalorisation de ces métiers-là. Je pense aussi que peut-être le comment dire. Il y a une volonté absolument de se mettre à l'abri, en fait, aussi financièrement par rapport à ça, donc de faire en fait des métiers qu'on n'a pas envie de faire, mais parce que au moins on aura peut-être quelque chose à se mettre sous la dent après le 20 du mois. Donc là-dessus, il y a peut-être aussi un rôle de l'État dans la dose de prélèvement, c'est-à-dire que ces métiers manuels-là, en fait, ils peuvent rapporter beaucoup d'argent si on laisse les gens tranquilles. Donc là, peut-être aussi, il y a une surprésence de l'État
dans les salaires, dans les prélèvements sur les salaires.
C'est ça.
Il y a quelque chose qui se passe dans notre pays où on valorise le travail du rond de cuir, enfin la présence du rond de cuir au bureau, et on dévalorise le rôle de l'entrepreneur et le rôle du travail manuel de façon systématique. Et je comprends pas pourquoi. Ça me paraît...
Surtout qu'en plus de ça, je trouve que le travail manuel aujourd'hui, bah, plus on en manque, plus les prix du coup peuvent augmenter par la rareté du coup du personnel. Et puis je trouve que c'est aussi une assurance du coup potentiellement d'être rapidement son propre patron, voilà, et derrière, bah, si vous êtes un employé de banque mais qu'il y a une crise du secteur bancaire ou je sais pas,
ils vont y en avoir d'autres, hein. Alors je connais la banque depuis, parce que j'ai travaillé avec ma grand-maman et je la suis depuis toujours, hein. Il y a une chose certaine, c'est qu'il y aura toujours des crises bancaires.
Ouais.
Ça, je me fais pas de soucis.
C'est sûr.
Il n'y a rien de plus prône à la crise que les banques.
Mais alors, pour revenir un petit peu au sujet, parce qu'on s'en est un peu éloigné pour terminer cet entretien, pour revenir au sujet des élections américaines. D'ailleurs, on va parler tout de suite de la Fed. Vous avez fait une émission avec Emmanuel.
En disant qu'il était en train de...
En parlant de ça sur...
Et le papier de cette semaine, c'était d'expliquer que ça ne peut pas marcher, quoi.
Ouais.
Donc, on arrive.
Mais alors, pourquoi justement cette prise de décision de...
Mais parce
de
que si la Fed ne baisse pas ses taux, ne la baisse pas, le déficit budgétaire, compte tenu de la hausse des frais financiers sur la dette passée, va exploser. Et donc, on arrive maintenant au moment où... vous savez, je vous en ai souvent parlé dans le passé, de ce qu'on appelle une trappe à dette.
Ouais.
Vous savez, où l'accumulation de la dette devient beaucoup plus rapide que la richesse qui est créée pour payer cette dette. Voyez, vous avez donc une espèce de delta qui se crée, là, pauvre. Et quand vous avez une exponentielle qui se compare à une autre exponentielle, si vous me croissez de 3% par an et puis l'autre de 2% par an, au début, ça se voit très peu, vous savez, ça monte. Puis à un moment d'inflexion dans les deux courbes, d'un seul coup, il y en a une qui se met à monter comme ça et l'autre qui ne monte pas du tout comme ça. Et donc à ce moment-là, Et la dette dans tous les pays de l'OCDE est en train de ce niveau où maintenant on sait de façon quasiment certaine qu'elle va se mettre de monter de façon complètement exponentielle et que la croissance, elle va pas suivre, elle va rester à 1 ou 2% par an, quoi, à tout péter, si tout va bien. Donc ça devient maintenant toute croissance marginale qui va avoir lieu dans les années qui viennent va être de plus en plus consommée par la dette. Et la seule façon que vous pouvez essayer de faire, c'est d'essayer de baisser les taux d'intérêt pour que la pente de cette exponentielle monte un peu moins vite que si vous n'aviez pas baissé les taux d'intérêt. Mais en même temps, plus vous faites ça, et plus en quelque sorte, c'est encore une minute, monsieur le bourreau. Quoi,
c'est un peu ça. Ouais.
Donc, tout le monde le sait. On est en train d'arriver partout, en Angleterre, en France, en Allemagne. Tiens, ça va mal en Allemagne, d'ailleurs. Il faudrait peut-être qu'on en parle.
Oui.
Et donc voilà, pour moi c'est un truc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'était mais complètement visible, qu'ils ont fait toutes les astuces pour essayer de le diminuer le plus longtemps possible, mettre les taux d'intérêt à zéro, les taux négatifs, enfin, mais que ben, ça y est, la réalité frappe à notre porte, quoi. Et donc, ben voilà, donc, je répète ce que j'ai dit, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que quand vous avez ces deux exponentielles qui s'écartent, c'est ce que disait Einstein, il disait la force la plus importante de l'univers, c'est les taux d'intérêt composés. Une fois qu'on commence à...
Oui, on va rajouter 0,1% à 0,1% à 0,1%, etc.
Et ça finit par... Ouais. C'est la vieille blague. Y a le type qui a inventé le jeu d'échecs, c'était en Inde. Il y a le Maharaja qui lui dit, c'est vachement bien ton truc, combien tu veux être payé ? Il dit, je ne demande pas grand-chose, je demande, vous mettez un grain de blé sur le premier carré, puis deux grains de blé sur le suivant, puis quatre, et puis huit, et puis c'est tout. Et tu arrives au 64e, il avait tout le blé du monde.
Ouais.
Et donc le Maharaja l'a mis à mort pour lui apprendre à raconter des conneries quand même. Donc les taux d'intérêt composés, c'est monstrueux. Il ne faut jamais se laisser entraîner là-dedans. Si vous vous laissez entraîner dans une hausse des taux d'intérêt comme ça, en tant qu'État, vous êtes mort.
Ouais, et ça ne va pas faire remonter l'inflation derrière ça ?
Mais je ne sais pas, parce que si vous voulez, en même temps, les gens, pour payer leurs dettes, ils vont être obligés de diminuer d'autres dépenses. Donc, aussi bien, ça va faire baisser les prix des autres dépenses, puisqu'il y en aura moins d'acheteurs. Vous savez, c'est toujours pareil. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça va faire, mais ça veut dire en tout cas que nos États sont en train de rentrer en état où ils vont devoir choisir entre la dette, les fonctions régaliennes et les fonctions sociales.
Ouais, notamment on pense au domaine de la santé aux États-Unis.
Les fonctions sociales aussi. Regardez chez les transferts chez nous.
Ouais.
Ça doit être 20 ou 25% du pays, j'en sais rien. Donc il y a un moment, j'ai une vieille cousine qui est plus âgée que moi, qui vit dans la région d'Aix, et qui je crois, pour vivre 450 euros par mois. Bon, comment peut-on vivre avec 450 euros par mois, mais la pauvre. N'importe qui rentre en France de son âge... touche 900 euros par mois du gouvernement. Ouais. Comment est-il possible de distribuer 900 euros par mois à des gars qui arrivent de l'extérieur et à laisser des Français avec 450 euros par mois qui sont au-delà du seuil de misère, quoi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le système, quoi.
Oui, effectivement.
Donc on supprime les 450 euros, ou on supprime les 900, ou on supprime les deux. Mais à l'allure où la dette va, il va falloir faire ça.
Effectivement, il y a des gens de plus de 61 ans qui viennent sur le territoire national parce que en fait, ils peuvent toucher du coup le minimum vieillesse.
Ils ont un grand-père ou une grand-mère, ou j'en sais rien. Bref, ou c'est aussi le grand-père ou le grand-mère d'enfants qui sont ici. Donc on arrive à un moment où la dette est en train de s'écarter comme ça, de façon accélérée. Et on a des tels stocks de dettes que ça porte sur des sommes gigantesques. Écoutez, la dette aux États-Unis vient de dépasser 34 000 milliards de dollars.
Ouais.
Donc 1% de plus sur la dette, 34 000, 3 400,
ça va être
340. Donc 1%, c'est 340 milliards de dollars. Je veux pas dire du mal des gens, mais 340 milliards de dollars... Le déficit budgétaire était à 100 milliards de dollars il y a 10 ans, quoi. Donc, un point,
ouais. Un point.
Deux points, 680. Trois points, c'est 1000 milliards de dollars. Ouais. Vous voyez à quelle heure ça va, quoi.
Les États-Unis sont énormément endettés sous Joe Biden.
Ils sont endettés, mais et à court terme.
Ouais.
Et à court terme. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous vous lancez dans une politique comme ça, au moins, nous, on a pris des dettes à 10 ans. Donc, pour que les taux aient de l'influence sur la dette, c'est dans 11 ans que ça se passera. Parce que d'abord, on a des taux d'intérêt très bas pendant 10 ans. Tandis que là, ils avaient une dette dont ils n'avaient pas augmenté la duration, qui était un an et demi. Mmh. On peut vous rendre compte. Hein. Ça vous fait tout de suite sauter, quoi.
Ouais, c'est clair. Et est-ce que ça, c'est pas précisément le tombeau de Joe Biden, parce que...
C'est le tombeau de cette politique que j'appelais le social clientélisme.
Ouais.
Où, dans le fond, vous prenez de l'argent à Paul pour le donner à Jacques, vous en gardez la moitié et vous dites, regardez comme je suis bon. Mais c'est fini, ça. Mmh. Vous pouvez plus, aujourd'hui, la dette. Il y a quelque chose que j'ai calculé aussi qui apparaît dans un des écrits, c'est que autrefois vous empruntiez 100 et puis vous les dépensiez dans l'économie américaine et il y avait ce qu'on appelait le multiplicateur keynésien, c'est-à-dire pouf, les 100 que vous aviez mis se transformaient en 130 ou 140 7 ans plus tard.
Oui.
C'est-à-dire que si vous dépensiez ici, ça crée plus de richesse là. Aujourd'hui, si vous dépensez 1, ça crée 1,50 de dette de plus que de PIB. Donc vous vous retrouvez, plus vous endettez, plus vous plongez vite.
Oui, bah, c'est aussi, évidemment, ça dépend de où est utilisé l'argent de la dette. C'est-à-dire que si vous l'utilisez, par exemple, pour prendre un exemple qui vaut être utilisé pour la France, si vous êtes dans les années 60-70, vous endettez
pour
construire des centrales nucléaires, c'est pas pareil que si vous vous endettez pour faire des transferts sociaux. Or, aujourd'hui, c'est
très important ce que vous dites, et j'ai écrit des papiers là-dessus aussi, je suis encore vrai. C'est que vous avez... l'épargne dans un pays,
ouais,
à investir. Et à cette épargne que vous et moi on fait comme des bonnes petites fourmis qu'on est, vous rajoutez les profits des sociétés. Ça donne la masse des capitaux qui peut être investi à payer à un moment donné. Et il faut qu'il y ait des systèmes pour que cet argent, ce capital, aille au secteur productif.
Ouais.
Et ben ça, c'est justement, c'est bon, il y a le système bancaire, etc., puis pour qu'il aille aux meilleurs entrepreneurs. Donc il faut que l'argent soit cher pour que seuls les meilleurs entrepreneurs puissent emprunter cet argent. Mais si vous prenez cet argent qui devrait... Et ça, si vous faites ça, si l'argent va aux meilleurs entrepreneurs, le stock de capital augmente. Donc le gros travail, c'est que vous avez une épargne qu'il faut ensuite transformer en capital productif.
Ouais.
C'est ça le rôle du système financier. Vous prenez de l'épargne à gauche et vous la transformez en machine à droite. Hein. C'est ça. Mais si vous prenez l'épargne à gauche et que vous la transformez en acquis sociaux, ben le stock de capital, il ne monte plus.
Ouais. Oui, ils font comme neige au soleil.
Ils font comme neige au soleil. À ce moment-là, la productivité baisse et tout le monde s'appauvrit.
C'est ça.
Et bien, c'est là où on est.
Oui, exactement.
C'est là où on est. Et donc, si vous voulez, c'est là qui est extraordinaire. Vous dites, c'est là où on est. Et on vient me parler de remplacer Tartempion par Tartemuche.
Ouais.
Et je me dis, mais c'est pas le sujet.
Oui, c'est sûr.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment pas le sujet. Donc vous dites, c'est Biden. Mais en fait, Biden, c'est toute une espèce de mouvement qui a commencé dans les années 60 avec Johnson.
Ouais.
Qui était de prendre l'argent du secteur productif pour le distribuer au secteur non productif et gagner les élections avec ça. Et ça a créé une espèce de corps à Washington. Washington est quand même la ville aux États-Unis où le revenu moyen est le plus élevé des États-Unis. Il y a les plus belles fortunes. Et vous dites, mais comment vous avez gagné votre truc? En nous piquant du pognon.
Oui, c'est sûr, c'est pas par...
C'est pas par la création de pognon, c'est par le vol. Washington, c'est la capitale de la kleptocratie du monde. C'est honteux.
Oui, et Biden, c'est vraiment le gros représentant
de ça.
C'est la
fin, c'est le...
Parce que le budget du secteur de la santé aux États-Unis augmente de
PIB.
Jour en jour. Enfin, c'est un truc de malade
mental. C'est une histoire de fou.
C'est un truc de fou.
Je prends des pilules que je m'achète pour toutes les maladies qu'on attrape quand on a 80 balais. Quoi. Le cœur qui flanche, enfin, tout, quoi. Il n'y a rien qui marche. Enfin, ça part en morceaux. si vous voulez, si je me l'achète en France, ça me coûte 70 centimes la pilule. Et si je l'achète aux États-Unis, 7 dollars la pilule, quoi. La pilule. Et donc, vous dites, mais pour... Et c'est des médicaments qui sont dans le secteur public depuis 10 ou 15 ans, quoi.
Ouais.
Donc, mais qu'est-ce que c'est que ce système? Il n'y a personne qui...
Ouais,
c'est du vol à la tire.
Ouais. Non, c'est sûr, c'est un système extrêmement dysfonctionnel, c'est clair. Est-ce que... Bon... Est-ce que Joe Biden, au final, vous pensez...
Il est gâteau, il est foutu, il est foutu.
Mais est-ce que vous pensez qu'il va être candidat? Parce que...
Bah, non, il va, on va nous annoncer.
Je trouve que la question se pose de plus en plus. Là, maintenant que la campagne commence à être vraiment lancée, qu'il y a des meetings, on voit Donald Trump dans une forme absolument olympique, on a l'impression qu'il...
Forme, lui.
On a l'impression qu'il a pas pris une ride depuis 2016, voire même il est encore plus fort qu'avant. Enfin, je veux dire, c'est absolument remarquable. Et derrière, on a Biden qui bafouille, qui a envie d'aller dormir, qui sait pas où il est.
Sur un tapis.
Il sait pas avec qui il est, à qui il faut serrer la main, à quelle heure il est, où est-ce qu'il est, pourquoi il est là. Il arrête pas de baisser dans les sondages aussi, parce que faut quand même se rappeler, en 2020, c'était un moment particulier parce que Joe Biden, Donald Trump, a battu quand même son propre record de nombre de votes.
C'est pour ça qu'il y a toujours eu des doutes, parce que c'est quand même...
Voilà. La raison pour laquelle, en tout cas, selon toute vraisemblance officielle, la raison pour laquelle Biden a été élu, c'est parce qu'on a convaincu des gens d'aller voter contre Trump.
Oui, et aussi parce que jamais il n'y avait eu autant dans l'histoire des États-Unis de votes par correspondance. Oui. Qui est une façon, oui. comme le disait Pompidou, de faire voter les morts. Quoi,
oui, alors oui, donc, littéralement.
Donc là, il s'est passé des tas de choses. Bon,
enfin, je me souviens
quand même... C'était
quand même particulier, il y avait un énorme mouvement Go Vote. Fallait absolument aller voter, même si vous n'étiez pas convaincu du tout. Fallait absolument aller voter, parce que vous vous rendez compte, Donald Trump, c'est gravissime, etc. Je ne suis pas du tout convaincu qu'autant de gens aillent voter contre... quelqu'un, a fortiori Donald Trump.
Surtout qu'il y a encore une fois y a des tas de trucs qui se passent. Donc, je ne peux pas répondre exactement à ce qui va se passer, mais c'est, on sait très bien les résultats. Si Trump est élu, bon, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un nettoyage de l'état profond qui va être, ça va être quelque chose. Et s'il n'est pas élu... Il y a des États, moi bon, ce que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais les États-Unis sont à la veille d'une nouvelle guerre de sécession. Quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que des États comme le Texas, la Floride, l'Oklahoma et tout, ils vont dire, écoutez, vous nous cassez bien les pieds, mais on n'accepte plus les ordres de Washington. Hein.
Oui, on voit de plus en plus ce mouvement-là. D'ailleurs, heureusement qu'il y avait quand même la Cour suprême côté républicain pendant cette présidence Biden, oui, parce que ça a pu permettre quand même aux États d'agrandir un peu leur marge de manœuvre contre l'État central fédéral de Washington.
Et si vraiment l'État est en faillite, il va falloir qu'il abandonne ses fonctions de défense. Donc il n'y aura plus de pognon pour le machin militaro-industriel. Là,
oui,
le complexe militaro-industriel. Et si on réforme vraiment la sécurité.
Et donc derrière pour l'OTAN.
Et donc derrière pour l'OTAN. Et donc... on revient à la question qu'on a souvent posée ici, qui vous préférez comme protecteur, hein, la Turquie ou la Russie, quoi. Ouais. Va falloir qu'on choisisse.
Ouais. Pas facile, hein.
Je sais pas, moi. On va voir.
Pas facile. Enfin, ce que je note quand même pour du coup mettre un petit peu à jour toute cette question-là de cette élection.
Un dernier mot sur l'élection, oui, parce qu'il y a quelque chose.
C'est quand même que je trouve sur tous les sujets du moment, Trump est largement pris beaucoup plus au sérieux que Joe Biden. J'ai regardé encore une fois un sondage très récent, je crois d'hier ou avant-hier, qui s'adressait donc au swing state, et donc sur les sujets suivants, l'économie, l'inflation, l'immigration, puisque là Biden, Biden en 4 ans en immigration illégale, c'est autant que sur les 3 derniers mandats présidentiels, donc les deux d'Obama et celui de Trump. Sur le conflit en Ukraine, sur le conflit israélo-palestinien, est vu beaucoup plus comme beaucoup plus sérieux que Joe Biden. Il y a que sur le thème de l'avortement, en fait, et de la santé publique, que c'est un peu plus défavorable pour Donald Trump. Mais pareil pour le secteur de la santé publique, ça s'explique parce que justement Biden en fait sponsorise sa santé publique par la dette. Et ensuite le thème de l'avortement, Trump, je trouve, est pas trop en difficulté encore, parce que c'est pas tellement son sujet à lui, c'est pas autant par exemple que Ron DeSantis. Et puis en plus de ça, c'est pas du tout un sujet qui est d'actualité, donc je pense pas que la présidentielle se jouera là-dessus. Quoi.
La Cour suprême a rendu son truc, maintenant c'est chaque État qui décide de sa politique.
C'est ça, c'est les États qui décident, c'est pas celui de Washington de décider. Donc bon.
Et on va voir ce qui se passe pour ces élections, mais encore une fois, il faut pas oublier, aussi bien en Grande-Bretagne, où il va y avoir des élections aussi, où il risque d'avoir l'apparition d'un troisième parti, que dans un scrutin majoritaire à un tour, si vous avez deux candidats, c'est quand même plus simple que si vous en avez trois. Même pour le calcul des probabilités, parce que surtout dans un système comme les États-Unis, où il faut avoir les États, puis la majorité, puis etc., vous pouvez vous retrouver avec des configurations qui sont... Je veux dire, trois candidats, les probabilités sont presque impossibles à calculer.
Ouais. Enfin, donc, si le troisième candidat
a du poids, à peu près 10%, ça peut changer tout partout. Quoi.
Ouais.
Parce que ça peut faire perdre, je sais pas, quatre États à Biden dans l'Est des États-Unis. Ouais, après, absolument. Il est cuit. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, aussi bien en Angleterre, on va se retrouver la même chose, mais au niveau des députés, si Farage lance son parti, il risque d'y avoir trois candidats partout. Et alors là, c'est vraiment la bouteille à l'encre. Ouais. Parce que sur deux tours, vous pouvez faire des alliances, mais sur un tour...
Ouais, c'est sûr. Et puis,
il n'y aurait pas eu de NUPES s'il n'y avait eu qu'un tour. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis pareil, il peut y avoir des grosses incertitudes par rapport au sondage. Donc parfois, vous ne savez pas à l'avance ce qui va se passer. Mais si je prends un État comme la Pennsylvanie...
où ça se joue à une voix.
Si vous avez, Joe Biden qui est donné gagnant au Pennsylvanie avec 3 ou 4% d'avance, mais que derrière, il y a Robert Kennedy Jr. qui vient faire 15%, ça peut totalement rebattre les cartes. Ça peut remettre Trump devant.
Complètement. Ça sera vrai aussi au niveau des... Donc, il me semble que, on en a souvent parlé ici, cette espèce de réveil des peuples et tout, et l'incapacité des systèmes étatiques qu'on a eus en place à se renouveler pour répondre à ces demandes des peuples, fait qu'on a maintenant des scénarios devant nous qui sont complètement imprévisible.
Ouais, tout à fait. En un mot sur l'Angleterre, enfin sur le Royaume-Uni. Mmh. Effectivement, là, on risque d'avoir, enfin, si ça se jouait aujourd'hui, on risquerait d'avoir une énorme vague rouge.
Mais c'est pas sûr du tout.
Favorable au travail.
Sauf s'il y a Farage.
Mais alors, effectivement, si Nigel Farage revient dans la politique. L'enjeu à ce moment-là, c'est pas tellement de gagner les élections, parce que je pense que Farage n'est pas en position de gagner les élections générales, sauf que l'objectif, ce serait vraiment d'enterrer le Parti conservateur, parce que c'est le Parti conservateur qui a été obligé de faire le Brexit, sauf que en fait, ça n'a pas été du tout comme ce que les Brexiteurs voulaient.
Personne n'est content au final. Ils sont toujours pas sortis de la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'il y a eu des problèmes. Donc, ça fait 5 ans qu'il y a eu le Brexit, et puis pof, la classe dirigeante anglaise, aussi conservateur et travailliste, a tout fait pour essayer de faire le Brexit minus, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait le même coup que Sarkozy, quoi. Donc les Anglais n'ont pas eu le Brexit.
Ouais. Ils ont pas eu, enfin, c'est-à-dire que les Brexiteurs n'ont pas eu le Brexit qu'ils voulaient, et puis bah les anti-Brexiteurs sont quand même mécontents parce qu'ils sont quand même sortis de l'Union européenne. Donc c'est un perdant-perdant.
Perdant-perdant.
Et les conservateurs ont absolument tout à y perdre, y compris leur monopole sur la droite anglaise.
Et quand vous regardez comment ils ont gagné la dernière fois, c'est que Farage n'avait pas mis de candidat dans toute cette espèce d'immense zone industrielle qui part de Londres et qui monte presque jusqu'à l'Écosse de chaque côté là. Où il y avait c'était des territoires rouges.
Mais il y a un potentiel énorme dans ce.
Et là, Farage, il pourrait faire un vrai tabac.
Ouais, c'est sûr.
Il pourrait faire un vrai tabac parce qu'il pourrait remplacer le parti. Ce parti travailliste aujourd'hui, bon, c'est devenu le parti des syndicats, quoi.
En fait, c'est simple. Si on regarde, par exemple, sur les élections générales, lors desquelles c'était Johnson qui était candidat.
Ouais, ouais.
Il a eu une chambre incroyable grâce à Farage, grâce en fait à toute la partie travailliste.
C'est
ça. Il a eu effectivement une sociologie pas du tout conservatrice à la base, qui vote pas du tout conservateur. Donc il y a eu des abstentionnistes, il y a eu des votes Labour qui se sont transformés en vote Johnson. Effectivement, c'est toute une partie de la sociologie anglaise sur laquelle Farage pourrait tabler. Alors pour ça, c'est pour ça que c'est difficile de s'imposer.
Mais on peut pas savoir.
Il faut avoir une structure déjà un peu mise en place, il faut avoir des candidats partout, ce qui n'est pas forcément évident, et des bons candidats, c'est encore mieux. Donc il faudrait qu'il arrive à avoir des candidats partout. Et là, à ce moment-là, il peut faire un truc énorme. Il peut changer la vie politique anglaise.
Il peut liquider le Parti conservateur.
Ouais, il peut liquider le Parti conservateur. S'il y a un moment pour le faire, je pense que c'est cette année. Parce que là aussi, on voit les droites de tous les pays de l'Union européenne sont en train d'évoluer. Même les LR en France essayent de se positionner un peu plus à droite parce qu'ils voient que le vent tourne. Mais enfin, partout, en fait...
Je suis sûr qu'il y a des tas de gens de gauche qui votent pour Erdogan en Hongrie. Oui. Pas pour Erdogan, pour
Orban.
Et pour Orban, parce que il correspond à une demande populaire.
Oui, ouais, c'est ça. Et on voit partout.
Farage pourrait être le Orban anglais.
Les droites d'aujourd'hui en Europe qui sont en train de gagner, qui sont en train d'arriver au gouvernement, que ce soit en Italie, bon, même s'il n'y a aucun résultat, mais je veux dire, c'est sur l'intention, que ce soit en Suède, dans plein d'autres pays. On voit que c'est pas les mêmes droites que les droites des années 90-2000. Alors que les conservateurs, eux, ils restent dans leur sillon de la droite Cameron, quoi, 2000.
Ou Cameron, moi je dirais plutôt c'est la droite 1880, parce que ce qui est bien avec les Anglais, c'est qu'ils changent vraiment.
Oui,
changement.
Enfin, oui, non, mais c'est le même esprit, quoi. Mais du coup,
les conservateurs britanniques, c'est autre chose.
Ils se réadaptent pas du tout. Ils auraient dû, selon moi, se réadapter. En fait, ils auraient dû faire leur révolution idéologique avec Johnson. Mais ils sont pas du tout allés au bout.
Et surtout avec Johnson. Johnson les a trahis en plein milieu. Ça a été un pantin, Johnson.
Voilà.
C'est affreux.
Et aujourd'hui, ils ont même pas un pantin. C'est directement. Il a même pas besoin de faire semblant, Richie Sunak. L'homme de Davos, donc ils n'ont pas du tout
été représentés par les hommes de Davos, ça c'est fini. Ouais. Le dernier, c'est on l'a ici à Paris, ouais. Avec monsieur, c'était l'homme de Davos, bon oui, mais c'était pas une bonne idée.
Hein. Ouais, non, c'est clair. Enfin voilà, du coup, ça aussi, ça va être une affaire importante à suivre, cette histoire.
Mais est-ce que vous dites un intéressant, c'est-à-dire qu'on a une vraie contradiction entre les systèmes électoraux qui sont hérités du passé, ouais, et la disposition géographique, la sociologique des gens. C'est-à-dire que nos systèmes électoraux sont complètement inadaptés,
ouais,
à ce changement de politique.
C'est-à-dire que c'est soit le système électoral qui doit changer, soit c'est les acteurs du système électoral qui doivent complètement shifter aussi. Donc, en Angleterre, soit ils renoncent à leur système, mais j'y crois pas trop parce que c'est tellement ancré, important, ce système du winner takes all de chaque en un tour. Je pense pas qu'ils vont changer, sauf que du coup,
s'il y a trois joueurs,
c'est pas pareil. Après, c'est forcément un jeu qui favorise le fait qu'il y ait deux joueurs, mais du coup, faut qu'il y en ait un qui prenne la place de l'autre. Donc il faut absolument que les conservateurs prennent la plus grosse branlée de leur histoire, ce qui semble pas totalement impossible à l'heure actuelle.
Pas du tout impossible. Donc, c'est ce que disait encore une fois Milton Friedman, buvons un coup. Il disait, les hommes politiques ne changent jamais. C'est les électeurs qui les changent.
Ouais.
Je trouve ça au poil comme
parole. Il faut les virer. Il a tout à fait raison.
Sortez les sortants.
Voilà, donc en plus de ça, quitte à ce que les conservateurs perdent, autant qu'ils perdent pour de bon.
Quelque chose qui apparaisse en contrepartie.
Voilà, exactement. Voilà pour cette émission, première émission de l'année. Encore une fois, je vous souhaite à tous une très belle année 2024. On va pas s'ennuyer, enfin j'espère pas. Ce que je dis comme en fin d'émission à chaque fois, c'est que ces émissions elles sont disponibles en format podcast, hein, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, que nous sommes sur tous les réseaux sociaux possibles, du moins sur lesquels on peut circuler en Occident. Et évidemment, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Ça aide vachement pour le référencement, pour que d'autres gens puissent voir les vidéos dans leurs suggestions YouTube. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, merci et à la semaine prochaine pour un nouveau Délit d'Opinion.
À bientôt.